Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Il s'appelle Anissé Kipasa Mungala. Il est médecin-chef de district sanitaire de Kikwit. Nous sommes dans le Bandundu. Il a été en 95 vice-président et point focal de la grande commission de lutte contre Ebola et vice-président du comité international de coordination scientifique et technique de la fièvre hémorragique virale Ebola. En plus de cela, il a occupé aussi certaines fonctions politiques. Il a été député national en quelle année déjà, docteur Kipasa?
Oui, c'est pendant la transition, juste après Sun City.
Voilà, on va évoquer ça dans cette émission. Bienvenue dans le studio de Radio Kapi.
Merci, merci.
Vous allez bien?
Oui, parfaitement bien.
Alors, docteur Anissé Kipasa, je l'ai dit, vous êtes médecin-chef de district sanitaire de Kikwit. On va parler de votre parcours professionnel, mais on parlera également du virus d'Ebola. C'est l'actualité aujourd'hui, pas seulement en RTC et même dans le monde. Vous avez été vice-président et point focal de la Grande Commission des luttes contre cette épidémie en 1995. C'est lorsque cette épidémie s'était déclarée dans la province de Bandundu.
Effectivement, Kelly, sur le plan de l'histoire, c'est l'une des plus grandes campagnes de lutte contre Ebola. C'est vraiment, je dirais, le Congo et Kikwit à cette époque était l'épicentre international, comme ça se fait aujourd'hui sur Ebola.
Alors, vous allez nous expliquer comment ça s'est passé, comment vous avez lutté contre cette épidémie. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Ça remonte à très très loin. Docteur Anissé Kipasa, vous êtes né où et quand?
Je suis né à Kikwit le 17 avril 1953.
Et c'est à Kikwit où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance?
J'ai passé presque la plus grande partie de ma vie, de mon enfance, mes études, évidemment sauf les études universitaires et post-universitaires. Mais dans l'ensemble, j'ai toujours été à Kikwit ou autour de Kikwit.
Et vous avez étudié, j'imagine, dans des écoles de prêtres?
Effectivement. L'école primaire, c'était l'école primaire officielle centrale 1 à Kikwit, qui existe encore aujourd'hui. Juste après le départ des Belges, le premier directeur noir, c'était Monsieur Boli, paix à son âme, qui était le premier directeur. Après, le directeur Moulon, c'est qui est encore en vie. Et après l'école primaire officielle centrale 1, je suis allé, bien sûr, à l'école secondaire, mais j'ai commencé par l'école secondaire des prêtres et des jésuites, collège Chris-Roy à Kikwit, avec le père, nous l'appelions le père Mandangu. C'est un père très connu, un jésuite. Et après, je suis allé à l'école de frères joséphites, à l'Institut Saint-Jean Bosco Indobo, qui était très 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 célèbre, très reconnu, parce qu'en dehors de la formation, à cause des activités culturelles, notamment les théâtres du Petit Nègre avec Feu Mikanza, et le sport surtout, où il y avait beaucoup de sportifs.
Alors on dit qu'à Kikwit, il y a des très bonnes écoles, la qualité de l'enseignement est bonne, disons à votre époque, actuellement c'est toujours le cas.
Je ne crois pas que ça a changé, parce que les écoles de prêtres, les écoles en général, même dans les écoles officielles aussi, ça n'a pas beaucoup changé. C'est vrai, on parle du niveau qui a baissé, mais en général, dans les milieux des Kikwit, dans le Bandundu, les écoles, on a des écoles de très bonne qualité. À Kikwit, nous prenons par exemple Kinzambi, la qualité est encore acceptable et très bonne dans les milieux des Kikwit.
Docteur Anissé Kipasa, vous avez grandi dans quelles conditions?
Oui, je dois dire que c'était dans des très bonnes conditions, dans des conditions catholiques. Mon père était un monsieur assez respecté dans le milieu, parce que c'est un homme très honnête et une certaine notabilité. Il a eu la chance d'aller en Israël, il est revenu et il était parmi le premier clerc de l'époque de Belge engagé à Kikwit. Et on a grandi dans des conditions familiales vraiment bonnes. Dans l'ensemble, on a eu un climat vraiment
C'était de bonnes conditions de vie.
Bonnes conditions. Non seulement dans notre propre famille, mais aussi la famille, l'essence de la famille à Kikwit, où on n'avait pas de problème de savoir telle famille est de quelle tribu. Tous les jeunes gens de Kikwit, c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'aujourd'hui on parle de la fraternité des amis et des natifs de Kikwit, c'est que nous étions vraiment dans l'essence large d'une famille. Non seulement pour Kikwit, mais même quand on venait à l'université, tous ceux qui venaient de Bandundu, qui viennent du Kwango, du Kulu, de Maïndombe, on a gardé ce sens de la famille qui était l'élément primordial qui a fait
jusqu'à ce jour.
Oui, on évite vraiment de voir des gens qui viennent de tel côté. On est resté vraiment unis. On se sent tous de la même famille.
Docteur Anissé, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Ah, oh là là, il y en a beaucoup. Je pouvais écrire un livre là-dessus. Mais
celui qui vous a peut-être le plus marqué?
Je mets le football. Et papa ne voulait pas, il avait peur, il pensait que j'allais rater mes études à cause du football. Mais un jour, mon oncle paternel est venu, il lui a dit, laisse-le jouer au football, ne demande-lui de faire autant pour le football que pour ses études. Et c'est comme ça que papa, qui m'avait acheté les photos de Pelé, quand Pelé était là, c'était mon idole, il a quand même accepté, il m'a laissé jouer. C'était un plus grand souvenir, convertir papa et l'amener à accepter quand même que je fasse le football. Je serais même professionnel aujourd'hui, mais...
Mais qu'est-ce que vous a détourné?
Je pensais que l'option que j'avais prise, la médecine, ça demandait beaucoup de sacrifices. Je ne pouvais pas mettre les deux ensemble, j'allais rater.
Et qu'est-ce qui vous a motivé?
J'ai eu, parmi les inspirations, l'un des premiers médecins congolais, docteur Doudoula. J'ai eu beaucoup de respect pour le médecin et la compassion que j'ai vue de ces médecins-là auprès des malades. Je me suis dit, je dois aimer mon peuple. Et l'une des meilleures façons de servir, c'est à travers la compassion que j'aurai en les aidant à soulager leur peine.
C'est un rêve que vous aviez depuis que vous étiez tout petit ou c'est en grandissant?
Pour dire la vérité, au demeurant, mon père voulait que je fasse soit la médecine, soit le droit. Mais moi, je lui disais, écoute, je voudrais être pilote. Il a dit, non, regarde les pilotes. Ils n'ont pas beaucoup de contact avec la population, surtout vers les années 50. On se disait, les pilotes sont des gens qui parlent pas. Et il m'a dit, mais si tu aimes les gens, c'est mieux d'être soit juriste, soit médecin. Et moi, j'ai choisi la médecine.
En 82, vous obtenez votre diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, à la faculté de médecine, université de Kinshasa.
Exactement, et là j'ai des très bons souvenirs parce qu'on avait beaucoup d'amis, par exemple l'ancien ministre de la Santé, docteur Victor Macron, c'est un collègue de classe, le professeur Lepira qui est encore là, et le docteur Ngalassi, pour ne citer que ceux-là. On a eu une très bonne promotion, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on est ensemble, on se parle, et on garde contact.
Et aujourd'hui, on critique quand même un peu les nouveaux médecins qui sortent de l'université de Kinshasa. On estime qu'ils ne sont pas assez outillés. Est-ce la faute des étudiants ou c'est encore un problème du niveau de l'enseignement?
Moi, je pense que, sincèrement, il y a une généralisation. Mais quand vous regardez parmi les jeunes médecins qui arrivent, quand nous le voyons en pratique, ils se défendent quand même bien. Et le grand problème, c'est il faut accepter que les exigences de patients aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on avait avant. Aujourd'hui, les patients, les malades sont devenus beaucoup plus exigeants qu'avant. Je crois qu'il faudra juger nos médecins par rapport, pas seulement par rapport à ce que on dit dans la rue, mais en eux. Je prends les jeunes médecins qui viennent du campus de Kinshasa ou de Lubumbashi ou partout ailleurs. Je crois qu'il y a de la valeur en ces médecins-là. Je sais que le premier pas en médecine dans la pratique peuvent être difficiles, mais ça ne suffit pas pour dire que la qualité est partie, parce qu'en pratique, on le voit. Mais vraiment, il faut croire aux médecins congolais. C'est d'ailleurs l'expérience que je vais partager avec ceux que nous avons eus. Pour Ebola.
Vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Kelly, c'est vrai. J'ai des enfants que j'ai adoptés et j'ai mes propres enfants, donc ça me donne 14. C'est pas beaucoup. Je voudrais être sincère avec toi. J'ai adopté certains enfants parce que vous voyez, nous sommes en Afrique. Mais j'ai moins que mon père de toute façon.
Votre père, il en avait combien?
Oui, mon père, je comprends parce qu'il y a eu...
Il était polygame?
Non, il s'est remarié deux fois après le décès de ma mère. Mes deux mamans, mes deux premières mamans étaient décédées. Il était obligé de se remarier. Et nous sommes une grande famille. Nous sommes une vingtaine.
Wow, c'est une grande famille, hein?
Mais c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire.
Alors, docteur Anissé Kipasa, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Sincèrement, Kelly, ce que je ne supporte pas, c'est l'injustice. Après mon passage aux États-Unis, j'ai beaucoup admiré la non-violence. Je suis de Martin Luther King. Ce que je n'accepte pas, c'est de voir quelqu'un victime de l'injustice, que ce soit en société, que ce soit dans ma profession, que ce soit dans les autres domaines. Ça me fait mal. Je souffre quand je vois une injustice, que ce soit une injustice sociale. Je préfère l'équité. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes que j'ai même parfois dans notre profession. Quand je vois certains médecins victimes de certaines situations qui ne sont pas justes, ça fait très mal. Ça fait très mal, les gens souffrent.
Et les jeunes médecins se plaignent hein, du fait que leurs aînés ne les aident pas dans le travail qu'ils font, alors qu'il faut préparer la relève.
C'est vrai, c'est vrai. Je pense, et c'est un conseil que je donne d'ailleurs aux jeunes médecins, que nous soyons jugés par la science, par notre travail, plutôt que de nous attacher beaucoup plus aux besoins matériels. Si vraiment on peut prendre le temps de lire, le temps d'écrire, le temps de publier, le temps de dans la recherche pour le bien du malade, je crois que on trouvera gain des causes. Si pas aujourd'hui, mais plus tard.
C'est quoi votre plat préféré?
Ah oui. J'aime être naturel. J'allais commencer par dire, je n'aime pas les surgelés. Pour avoir fait les études de santé publique aux États-Unis, et j'aime les plats naturels. Le pont doux, ça m'intéresse, mais surtout les légumes et les fougères. Le poisson, bien sûr. Mm-hmm. J'aime pas les viandes rouges, je préfère le poisson. Et bien sûr, que ce soit le poisson salé ou le poisson frais, et avec des légumes. Il faut éviter les surgelés. Et là, pour moi, je combats ça.
Vous avez suivi plusieurs formations à l'étranger?
Effectivement, j'ai suivi plusieurs formations à l'étranger. Après Ebola, j'étais à l'IMT à Anvers, comme encadreur de médecins anglophones qui venaient de l'Afrique australe. J'étais leur encadreur à l'ITEM, à l'Institut de médecine tropicale à Anvers. Mais la plupart de mes formations à l'étranger, c'est aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup plus aux États-Unis où j'ai reçu mon master en santé publique.
En 1986, hein?
Exact. En 1986, j'étais parmi le premier, du moins dans notre province, ou la deuxième ou troisième génération de médecins qui sont allés à Tulane, à l'université de Tulane aux États-Unis. Et même, je me rappelle un des amis qui était à John Hopkins, le docteur Oko, qui est un grand à l'OMS aujourd'hui. Et nous étions donc la troisième promotion, je crois, si je ne m'abuse, troisième ou quatrième promotion de ceux qui sont allés aux États-Unis pour la santé publique. Mais à cette époque-là, la plupart des médecins se disaient, mais non, mais vous perdez votre temps. Qu'est-ce que vous allez faire en santé publique? Mais aujourd'hui, tout le monde veut faire la santé publique.
Ouais. Mm-hmm. Un master en santé publique, santé internationale.
Avec concentration en épidémiologie. Et c'est ça, Kelly, c'est ça qui m'a aidé lors de l'épidémie d'Ebola à Kikwit.
Vous avez été sportif quand vous étiez plus jeune. Est-ce que vous continuez à faire le sport, docteur?
Non, je ne sais pas pourquoi j'ai un peu peur de courir derrière le ballon, mais je jouais dans une des grandes équipes de Bandundu, l'AS Futuka. Mon sport préféré, c'est le football. J'aimerais qu'un de mes enfants joue au football, mais...
Qu'il devienne professionnel?
Ah, si possible, pourquoi pas?
Au moins, lui pourra faire ce que son père n'a pas pu faire.
Exact. On avait du talent, tu sais. Je jouais très bien au football. Malheureusement, on ne pouvait pas continuer sur cette lancée pendant qu'on avait embrassé la médecine.
Parlons de votre parcours professionnel, docteur Kipasa. Lorsque vous êtes revenu au pays, en 86.
Quand je suis revenu au pays, je suis allé travailler à l'hôpital évangélique de Vanga avec docteur Fontaine. J'étais...
C'était votre premier boulot ou avant d'aller faire votre master, vous travailliez déjà?
J'ai travaillé déjà à Vanga comme médecin, superviseur pour la zone de santé de Vanga dans le Bandundu. C'était d'ailleurs l'une des premières zones et au Congo, une des meilleures zones si vous voulez. Après, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, je suis revenu par loyauté. Je suis rentré à Vanga où j'ai travaillé comme médecin chef de zone pendant au moins 9 ans. Et dès là, je suis allé travailler, je suis revenu au campus pour faire la spécialisation en chirurgie. J'ai commencé mais j'ai arrêté parce que j'avais obtenu un fellowship pour les États-Unis encore. Je suis rentré et quand je suis revenu, je suis devenu médecin directeur, tour à tour médecin directeur.
À l'hôpital général de référence.
À l'hôpital général de référence de Kikwit.
Pendant 3 ans.
Pendant 3 ans, oui, c'est vrai, pendant 3 ans. Et après, je suis devenu médecin coordonnateur provincial du programme élargi PEV pour le Bandundu. Ce n'est qu'après cela, à l'époque du professeur Machako, je crois, que j'ai quitté la coordination PEV et j'ai eu la chance d'aller comme délégué du Bandundu à Sun City et c'est de là que je suis entré au Parlement.
La politique vous attirait aussi un peu?
Kelly, c'est difficile. Parfois, je ne peux rien dire. Je suis parfois gêné. Les amis me disent, écoute, celui-là, il fait de la politique. Mais je ne sais pas, la politique, si d'une façon ou d'une autre, si je donne un avis, je donne un conseil à un politicien. J'ai vu des sénateurs aux États-Unis. Ils ont des conseillers, il y a des médecins, des juristes. Et chaque fois qu'on donne un conseil, que ce soit au gouverneur, à un ministre, à quelqu'un qui dirige, au maire de la ville, et parfois je suis gêné quand les gens me disent ah, « c'est un politicien, c'est un pur sang politicien ». Mais comment
ça, vous n'aimez pas qu'on dise de vous que vous êtes politicien?
Pas dans le sens péjoratif du terme, parce que...
Parce qu'il y a un sens péjoratif du
c'est
terme.
C'est vrai, il y a un sens péjoratif. Quand on parle des politiciens, on avait l'image des gens qui trompent, qui mentent, qui... Mais dans le sens... Écoutez, quand je suis allé à l'école santé publique à l'université, mais on fait la politique du pays, que ce soit en économie, que ce soit en médecine, que ce soit en agriculture. Donc, dans les sens positifs du terme, j'accepte. Si aujourd'hui, les gens qui quittent me disaient « Ok, nous voulons que tu rentres au Parlement », pourquoi pas? Ça m'intéresse. Mais je suis prêt à servir, pas nécessairement de façon active. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont au Parlement, mais ils pratiquent la médecine. Donc,
c'est pas incompatible, on peut être médecin et faire de la politique.
Oui, si je peux donner un conseil en politique, j'irai. Mais pas dans le sens péjoratif. Vraiment pas dans le sens
péjoratif. Alors, c'était une belle expérience pour vous, ce passage à l'Assemblée nationale. Je rappelle que vous étiez premier vice-président du groupe parlementaire de la société civile.
Exact. C'était une très belle expérience. J'ai aimé ça. Être parmi les décideurs, c'était une très bonne chose. C'était une très belle expérience avec celui qui était président, c'était son Excellence Monsieur Bahati. J'étais son second. J'ai beaucoup apprécié ça. C'était très bien.
Qu'est-ce que vous avez apprécié concrètement?
Ce que j'ai apprécié, nous sommes parmi les décideurs. Tout ce qu'on vivait, que ce soit dans le camp de l'opposition ou dans les camps, même dans la société civile où nous étions, dans le groupe parlementaire de la société civile, il y avait des divergences. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on restait toujours unis, on restait ensemble. C'était des gens avec des vues différentes, il y avait des divergences d'opinion, mais dans l'ensemble, on était unis, la société civile, nous étions unis, et notre groupe parlementaire était uni. Et nous étions là, c'était... sans beaucoup trop de passion. C'est dire, pourquoi je ne peux pas céder ma place à quelqu'un si ça peut apporter la paix? J'imagine une expérience qui dit, je peux vous le donner rapidement.
Allez-y.
La société civile au Bandundu avait choisi, parce qu'à l'époque, là, lors de la transition, on m'avait demandé d'être vice-ministre chargé des anciens combattants à l'époque. C'est ce qu'on avait donné comme poste à la société civile de Bandundu. Mais je me suis effacé pour laisser à M. Del Mambo. Pourquoi pas? Ça a apporté la paix. J'étais bien dans la peau de député. J'ai cédé ma place à M. Del Mambo. Même quand nous sommes arrivés à Sun City, il y avait certains qui disaient, qui passe ça? Tu es trop pasteur. Est-ce que tu ne peux pas être parmi l'équipe dirigeante? J'ai dit non. Laissez M. Kouye, qui est aujourd'hui sénateur, être notre dirigeant avec les Matusia et les autres. J'ai dit non, je préfère être public officer, celui qui devait faire des relations entre le bureau du facilitateur et les autres. Je n'aime pas...
Au nom de la paix et la cohésion.
C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux d'ailleurs.
Alors aujourd'hui, si vous devriez refaire cette expérience, vous vous présenteriez en tant que société civile toujours indépendant ou bien vous êtes membre d'un parti politique
hein? Oh non, sincèrement, aujourd'hui, il faut l'avouer. Non, je ne me présenterai plus comme société civile parce qu'aujourd'hui, je suis avec M. Bahati dans l'AFDC.
C'est un parti de la majorité présidentielle. On va souffler un peu. Docteur Anissé Kipasa, comment vous passez vos moments de détente lorsque vous n'êtes pas dans votre cabinet ou avec des bistouris, des ciseaux à gauche, à droite?
Non, quand je ne suis pas dans mon cabinet, je prends le temps pour la lecture de la médecine. Surtout, j'adore Google pour naviguer un peu pour tout ce qu'il y a de la médecine. Surtout maintenant qu'on a l'ébolaphobie, la psychose de l'Ebola. Mais dans les temps de loisirs, j'écoute la musique. Mais quelle musique?
Quel genre de musique?
Au départ, j'aimais bien Zaiko Langalanga, comme mon ami les pirates, et Banaoke. Mais aujourd'hui, j'adore beaucoup plus la musique de mes parents. C'est de la musique traditionnelle. J'aime, je vous surprends un peu, aujourd'hui, c'est la promotion de la musique de Monsieur Mundundu. À l'époque, c'est une musique traditionnelle, mais aujourd'hui refaite.
De votre province?
C'est la musique de notre province. En fait, Kelly, si on peut le dire, même la musique congolaise moderne, elle part de la musique traditionnelle. Regardez ce que Mamou National fait. Elle est partie d'une musique traditionnelle. Aujourd'hui, la vraie valeur de notre musique, c'est de rester attaché à notre musique traditionnelle. C'est pourquoi la musique, au Bandundu, il y a des grands groupes folkloriques, et parmi lesquels la musique de Mundundu, que j'aime beaucoup.
Et donc, si je comprends bien, c'est une façon indirecte de me dire que ça me ferait plaisir d'écouter la musique de Mundundu, c'est ça?
Exact, la musique d'à l'époque Mundundu, ça vraiment.
À l'époque Mundundu.
Oui.
Le titre d'une de ses chansons.
Femi, par exemple.
Qui signifie quoi, Femi?
Femi, il est en train de chanter le mai. Il a épousé une femme qui s'appelait Femi, mais à travers cette musique-là, il est en train de valoriser tout le mets congolais, le mets traditionnel, le mets congolais. Et je crois que c'est une très belle musique.
Alors, on va demander à Jean-Claude Nsiala, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, voilà, de nous proposer la chanson Femi pour le plaisir de Dr. Anissé qui passe à Mungala. Et aussi pour le plaisir de tous ceux qui nous suivent dans le Bandundu actuellement. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien. professeur Alice, vous êtes apparemment, non même pas apparemment, vous êtes très content d'écouter cette chanson. Vous êtes perdu là dans les pensées. Je me demande, ça vous fait penser à quoi? Ça vous rappelle quoi?
Sœur Makeli, je vois mes parents, je vois le travail que les amis font aux États-Unis avec cette musique. Et
la... Ce sont des amis à vous?
Oui, celui qui joue là, c'est un PhD en musique, le fils de Mundundu, il est cet énorme orchestre. Il fait cette musique pour nous et aujourd'hui les gens commencent à vraiment à aimer cette musique-là.
La mélodie, elle est pas mal, hein?
Oh, je vous jure, il y a même plus que ça. Ça rappelle des bons souvenirs, je vois mes parents.
Ça me rappelle un peu Kikuit.
Kikuit et Bulungu.
Votre enfance.
Bandundu. Mm-hmm. Notre enfance, vraiment c'est... Non, mais vraiment c'est des bons souvenirs. C'est une belle surprise, mais avec des très très bons souvenirs.
D'arrêter la chanson, on n'a pas beaucoup de temps, mais
merci,
c'est une très belle musique, je l'avoue.
Merci.
Je ne voulais même pas que Jean-Claude arrête, mais fait défaut. J'espère qu'elle vous a fait plaisir, cette chanson.
Oh, beaucoup, que de souvenirs. Je me sens encore beaucoup plus jeune qu'il y a quelques années.
Vous êtes toujours jeune, vous n'avez pas encore atteint 77 ans, docteur.
C'est vrai.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Un grand témoin à vous faire découvrir aujourd'hui, docteur Anissé Kipasa Mungala, médecin-chef de district sanitaire de Kikuit. Il a été en 1995 vice-président et point focal de la Grande Commission des luttes contre Ebola et vice-président du Comité international de coordination scientifique et technique de la fièvre hémorragique virale. Docteur, l'actualité aujourd'hui, c'est cette maladie qui a fait aujourd'hui plus de 5000 morts en Afrique. En 1995, vous avez été le point focal et le vice-président de la Grande Commission qui a lutté contre ce virus. Comment ça s'est passé d'abord lorsque le virus est apparu à Kikuit ou dans le Bandundu?
Effectivement, Kelly, c'est par surprise. L'histoire que je vais raconter là autour de la campagne, c'est aujourd'hui, nous sommes 19 ans après, c'est une histoire qui rend honneur aux médecins congolais. Partout où ils sont, à travers les médecins congolais, tous les autres scientifiques, que ce soit les juristes, les ingénieurs, les agronomes, disons, les économistes congolais, il faut avouer, l'expérience que nous avions eue à Kikuit rend honneur et refait la valeur de nos facultés, de nos universités. En 1995, on vous l'avait dit, c'est par surprise. Un matin, on se réveille, on voit des gens qui commencent à mourir. On ne sait pas. Parce qu'on a eu l'expérience avec Yamboukou, c'était il y a longtemps, en 79. Mais en 1995, contre toute attente, on est pris par surprise. Les virus frappent depuis le mois de janvier et c'est en avril qu'on arrive à identifier, à déterminer que c'est le problème. C'était très dur.
J'imagine que c'était pas facile pour vous, docteur Kipasa.
C'était une expérience, je l'avoue, très dure. Et surtout, ça se passe au moment où l'hôpital était... C'était un hôpital qui était en train de s'organiser par rapport à ce que nous faisions à cette époque-là. Et par surprise, le virus d'Ebola frappe et nous rentrons à la case de départ.
Il y a eu beaucoup de morts ?
Effectivement, il y a eu 315 cas avec 244 décès. C'était traumatisant. Vous imaginez, dès le premier jour, dès que le professeur Mouyembe est arrivé, en résumé, ça se passe au mois d'avril. Le virus était là depuis le mois de janvier, mais on parlait du phénomène Lambda-Lambda. Je crois l'écrivain Kibari l'a si bien fait dans son livre. On parlait du mythe des Lambda-Lambda depuis le mois de janvier, mais c'est en avril. Moi-même, j'étais à Kinshasa le 18 avril et le médecin urbain de l'époque m'enverra un message pour dire il y a un phénomène bizarre ici, les gens sont en train de mourir, il y a une religieuse qui vient de mourir, il y a des infirmiers qui meurent, s'il y a moyen de voir, il m'a recommandé un médecin là. J'ai dit bon, j'ai pris, je suis allé directement voir le professeur Mouyembe.
Alors quand on parle Ebola, on voit le professeur Mouyembe.
Non, Mouyembe c'est un grand. C'était un jeudi, je suis allé voir le professeur Mouyembe et il m'a dit, écoute, il m'a envoyé chez Médecins Sans Frontières. Parce que des Kikuit ont parlé de la diarrhée rouge, je me suis dit probablement c'est un problème de shigellose semblable à ce qui était arrivé du côté de Bukavu ou de Goma quand les gens quittaient le Rwanda et revenaient. Et je suis rentré à Kikuit d'ailleurs. Le prof Mouyembe m'a dit, va voir si c'est un problème de shigellose, je te colle, je te donne mon laborantin. Il m'a donné son laborantin, nous avons voyagé un vendredi, nous sommes arrivés à Kikuit et il m'a dit, ce monsieur doit rester à l'hôpital pour faire des prélèvements et voir si c'est ça. Et quand nous sommes arrivés, nous étions invités chez l'évêque jusqu'à minuit et un abbé responsable du développement m'a dit, écoute, si tu n'avais pas amené celui que tu as amené maintenant, j'allais inviter mon ami. J'ai dit, quel ami? Il dit, professeur Mouyembe. J'ai dit, justement, c'est le professeur Mouyembe que je suis allé chercher. D'ailleurs, voici le journal qu'il t'a envoyé. C'est comme ça que cet abbé, le diocèse va insister pour dire à Mouyembe, le lundi, il faut absolument que tu viennes. Et c'est comme ça que le professeur Mouyembe est arrivé.
Le docteur Mouyembe arrive à Kikuit. Quel était son constat?
Dès qu'il est arrivé, il a vu le premiers échantillons que ces laborantins avaient fait. C'est lui qui est parti avec moi. Il m'a dit, Anissé, je suis désolé, ce n'est pas la shigellose. Non, Mouyembe, c'est un grand. Et il m'a dit, allons voir les sœurs. Nous sommes allés voir les sœurs. Il me dit, par rapport à ce que je vois, la filiation des cas, les cas qui sont décédés, il y a une liaison avec le sang. Donc, je pense que ce n'est pas ça. Anissé, attention, je pense, nous étions avec lui, on était ensemble pour aller faire des prélèvements, des choses comme ça. Il me dit, je pense beaucoup plus à la fièvre hémorragique d'Ebola.
N'avez-vous pas paniqué lorsqu'il vous a dit que ça pourrait être le virus Ebola?
J'ai pas paniqué. J'ai dit, professeur, ça viendrait d'où? Il dit, crois-moi. Ça, il a vu les taches cutanées qui étaient sur le sœur. Mm-hmm. Il a vu les examens des laboratoires que son laborantin qui était venu avec moi le vendredi par El Kassai avait prélevé. Il m'a dit, je suis sûr que c'est Ebola. Nous sommes entrés dans mon bureau. Il a établi pour la première fois la filiation des cas. Il dit, voilà, c'est parti d'ici, ça c'est Ebola. Et c'est comme ça, le lundi, dans l'après-midi, nous avions déjà pris toutes les dispositions pour la coordination. Je me rappelle dernièrement d'ailleurs, un des médecins qui était à Djera, Dr. Kevela, a dit, le succès dans le contrôle d'Ebola, c'est une très bonne coordination. Et nous avions déjà pris exactement les modèles qu'on a aujourd'hui pour la coordination avec le comité international, avec la logistique.
Mais
avec...
comment vous avez fait pour stopper la propagation de ce virus?
Avec une bonne coordination, on est arrivé à arrêter la chaîne de transmission. C'est-à-dire, on avait une très bonne coordination avec la surveillance épidémiologique. Les gens allaient pour voir tous les cas suspects, tous les cas des rumeurs, tous les cas effectivement des décédés. Des gens, on le ramassait. Pour ceux qui étaient malades, on les amenait à l'hôpital. Et pour les autres qui n'étaient pas malades, évidemment, on faisait les triages et repartait. Et grâce à la surveillance épidémiologique et grâce à la mobilisation sociale, on a appris aux gens à adopter des comportements à moindre risque. Les 5 règles d'or pour prévenir Ebola. Donc, contrôler la rumeur, parce que la rumeur est très dangereuse et néfaste. Si les gens ne croient pas que c'est une maladie, ils se donnent à des comportements à risque. Par exemple, manipuler des cadavres, montrer leur amour en restant à côté des malades, toucher les malades, toucher tout ce qu'il y a. C'est ce qui explique la flambée en Sierra Leone. Les gens ne croient pas. Mais nous, à Kikuit, on a eu la chance, les gens ont cru, grâce à la mobilisation sociale et à la surveillance épidémiologique, on est arrivé à contrôler. Mais il y a un événement très important, c'était la transfusion qu'on avait faite le 6 juin 1995 à Kikuit. Ça donne de la valeur au travail que nous avions fait. C'était le malade qui était à l'hôpital. On a transfusé 8 et sur le 8, il y a eu un seul cas qui est décédé et c'était le point de départ de ce qu'on vit aujourd'hui.
Et est-ce que c'est la même souche qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest?
Non. La souche que nous avons eue, par exemple, en Djera, ça c'est notre souche. La souche de l'Afrique de l'Ouest, je dois encore vérifier. Mais Kelly, ce que je voulais surtout partager, c'est l'expérience du 6 juin. Ça révalorise le médecin congolais.
Parlez-nous un peu de cette expérience.
Crois-moi, il y a 19 ans, quand on a osé faire la transfusion. Je me rappelle, c'était la semaine la plus longue de ma vie. Le prof était à Kinshasa et ce jour-là, le comité international de coordination, les experts internationaux se sont fâchés. Ils ont dit, nous claquons la porte, nous partons. Pourquoi vous avez transfusé? Mais il faut louer la bravoure de cette équipe-là. C'était notre équipe de prise en charge. Je vois le professeur Kibadi, le docteur Massamba, mon papa, Kouvula et Ndabere, qui étaient bien sûr sous ma responsabilité. Et je leur ai dit, si vous voulez essayer, le prof avait demandé dès le départ qu'on nous envoie les sérums de convalescents. Les gens ont dit non, n'essayez pas, ça n'a pas réussi. Mais si vous voulez le faire, comme c'est une expérience, une première, vous devez prendre l'accord de l'infirmière qui était malade. Et imaginez Kelly, jusqu'à aujourd'hui j'ai gardé l'accord de cette infirmière, je l'ai sur un paquet de gants. Et je leur ai dit, la deuxième exigence, vous devez prélever le sang du donneur, le sang du receveur, avant de donner la transfusion et après la transfusion. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont prélevé, ils étaient vraiment...
Vous avez prélevé les sangs d'un malade?
On a prélevé les sangs d'un convalescent. Et le sang d'un convalescent d'Ebola. Quelqu'un qui était malade, mais qui était guéri.
Ok.
Et puis, avant d'être transfusé, parce que la communauté scientifique, en ce moment-là, n'acceptait pas, je leur ai demandé de prélever les sangs du receveur, de la personne qui allait recevoir les sangs, avant la transfusion, après la transfusion. Je vous dis, c'était phénoménal. Avant la transfusion, le sang qu'on a envoyé au CDC, il a été démontré que ce sang avait les antigènes, avait les virus. Après la transfusion, il a été démontré que ce sang n'avait que des anticorps, il n'y avait plus les virus, et cliniquement, le malade était guéri. Elle vit jusqu'à aujourd'hui.
Donc on peut refaire cette expérience aujourd'hui?
19 ans après, on était critiqués. Je me rappelle même le jour où le professeur est revenu, il a dit qu'il passa, nous sommes morts scientifiquement. J'ai dit, professeur, je crois que Dieu aidera, nous ne sommes pas morts scientifiquement, nous allons attendre. Attendons, c'est la semaine la plus longue. Celui qui a prélevé tous ces échantillons est parti aux États-Unis. S'il y a un problème, je crois, il va nous le dire. Et heureusement, je crois, 3-4 jours après, il a reçu le message que dans les sangs du receveur, le premier jour avant la transfusion, il y avait les virus. Après la transfusion, il n'y avait plus le virus. 19 ans après, aujourd'hui, Kelly, les gens veulent utiliser la sérothérapie. Ça signifie, c'est pratiquement l'expérience que nous avons tentée. En fait, c'est en train de redorer la...
Donc, c'est un honneur pour les médecins congolais. Quoi.
Je vous dis, partout où ils sont, qu'ils se sentent fiers. On est quand même bien formés.
L'OMS a demandé à la RDC si elle pouvait envoyer des médecins pour aider tous ces pays qui sont touchés par ce virus. Cet appel fait suite à l'expertise des médecins congolais.
Non seulement des médecins, même des infirmiers. Je vous dis,
à des psychologues, par exemple, aussi.
Des psychologues, des anthropologues. Aujourd'hui, quelqu'un comme Kibari, c'est serait mieux qu'il aille en Afrique de l'Ouest pour travailler. Je vous dis, il y a des infirmiers qui sont convalescents d'Ebola qui sont prêtes à aller travailler partout où il y a Ebola.
C'était une très belle expérience, docteur Anissé Kipasa. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce studio des Radio Capi pour pouvoir partager votre expérience par rapport à ce virus Ebola qui décime aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Vous avez peut-être un dernier mot à dire à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Capi.
Oui, merci. Je voudrais surtout leur dire de ne pas céder aux rumeurs, de ne pas se décourager. Le médecin ou le scientiste congolais, ils ont de la valeur. Il faut croire à nos universités, malgré les conditions dans lesquelles nous travaillons. Mais s'il y a quelque chose que j'aimerais vraiment demander, ce serait un plaidoyer auprès de son Excellence, Monsieur le Ministre. Il a beaucoup travaillé pour la coordination, même maintenant pour NGA. Mais je voudrais de faire un plaidoyer pour que on reconnaisse, qu'on donne des médailles de mérite civique à tous ceux qui ont travaillé, que ce soit à Kikwit, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Angela, que ce soit à Luebo, partout là-bas où il y a eu Ebola, qu'on donne, que son Excellence pense vraiment à qu'on décore ou à donner des médailles de mérite civique pour ce Mouyembe, à tous les autres, à son équipe, pourquoi pas au ministre lui-même, parce qu'il a, ils ont travaillé à Angela.
Voilà, un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le docteur Anissé Kipasa Mungala, qui est médecin-chef de district sanitaire de Kikwit. Il a été en 95 vice-président et point focal de la Grande Commission de lutte contre Ebola et vice-président du Comité international de coordination scientifique et technique de la fièvre hémorragique virale. Merci à Jean-Claude Siala qui était à la prise de son, au micro, Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.